Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits divers du Dauphiné libéré.
Elle a choisi le mot déflagration pour exprimer ce qu'elle a ressenti le jour où elle a su. Et elle en a choisi d'autres ensuite pour raconter l'horreur. Caroline Darian publie « Et j'ai cessé de t'appeler papa » aux éditions Lattès. Un livre bouleversant qui aurait pu s'appeler « L'effondrement » si elle n'était pas restée debout, elle et sa famille, pour livrer le récit d'une des affaires les plus sordides de ces dernières années. Pendant 10 ans, à Mazan dans le Vaucluse, son père a drogué sa mère pour l'offrir sexuellement à des inconnus, une centaine d'inconnus. Au téléphone ce jour-là, Caroline Darian, 43 ans, cadre en région parisienne, nous raconte l'insoutenable et répond à la première question « Pourquoi ?» Pourquoi en fait prendre la parole aujourd'hui alors que ça peut vous exposer vous et ça peut également exposer votre famille ?
Alors écoutez, c'est simple. Quand on vit un tel stéisme, enfin, il y a deux solutions, il y a deux choses. Soit ça nous effondre, et moi j'ai vécu un moment d'effondrement, soit on décide d'en faire quelque chose pour les autres. Moi, j'ai décidé rapidement d'en faire quelque chose pour les autres parce que je me suis rendu compte que le cas de notre famille, le cas de ma mère, le mien, n'était absolument pas un cas isolé. Alors évidemment, l'affaire est hors sol, hors norme, mais la soumission chimique dans un cadre familial, c'est une réalité aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas qu'une réalité en France, mais bon voilà. Simplement, on n'en parle pas. Il y a un silence qui est assez vertigineux autour de ce genre de pratique. Moi, très vite, je me suis dit que dans la mesure où nous, notre vie a totalement basculé, autant que ça serve pour le bien commun, pour la collectivité, parce que pour moi, derrière, il y a véritablement un enjeu de santé publique.
Donc, votre livre, il est conçu comme un journal intime. Vous racontez avec précision et détail, jour par jour, l'affaire. Donc, on est le 2 novembre 2020. Vous le dites d'ailleurs, je crois que l'horloge du four indique 20h25. Et c'est là que votre vie bascule, puisque vous recevez un coup de téléphone de votre mère, qui a précédemment déjà appelé votre compagnon. Et vous apprenez que votre père donc, a drogué votre mère avant de la faire violer par des inconnus. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on réagit à un tel coup de fil ?
C'est une déflagration. Moi, je n'ai pas d'autre mot, en fait. On ne réalise pas. J'ai du mal à réaliser ce que j'entends. J'ai du mal à me dire, mais il s'agit de mon père. Mon père qui m'a élevé pendant 40 ans. Enfin, avec qui j'avais une relation père-fille. On était proches, on était liés. Mon père, c'est quelqu'un qui comptait énormément dans ma vie. Jamais j'aurais pu imaginer une seule seconde ne pas connaître l'homme qui m'a élevé. Donc, il n'y a pas de mots assez forts, en vérité, pour décrire ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe en moi à ce moment-là. C'est terrible, en fait. C'est terrible pour moi, de la même façon que ça l'est aussi pour mes frères. Hein, parce que c'est leur père aussi. L'image du père est importante. Donc, voilà, c'est une gifle, c'est même pas une gifle. Moi, j'ai besoin de m'asseoir, je ne peux pas me lever. C'est très douloureux. Très, très douloureux.
Et petit à petit, en fait, les pièces du puzzle vont se mettre en place avec les enquêteurs. Vous allez reconstituer, en fait, cette affaire qui est insoutenable, en tout cas dans son récit. Et là, vous êtes face à un vertige parce que vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être 60, 70 agressions,
ouais, c'est, comme ça. C'est d'une violence inouïe, en fait. Hein. Très rapidement, on parle d'une cinquantaine d'auteurs. Et puis, d'une cinquantaine d'auteurs, rapidement, on nous parle de plus de 70. On passe de 8 ans à 10 ans. Plus on avance, et pire c'est, quoi. En fait, ça n'en finit pas. On se dit, mais à quel moment l'horreur va s'arrêter, en fait ?
Le mode opératoire de votre père, puisqu'il faut je pense qu'il faut le nommer comme ça, vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors, je ne peux pas vous l'expliquer dans le détail, parce que, comme vous le savez, il y a quand même une instruction qui est en cours. Et surtout, moi, je tiens à une chose, c'est d'éviter de faire des émules. Hein, parce que... En réalité, décrire le protocole qu'il appliquait, c'est aussi donner des idées à d'autres. Et franchement, je préférais éviter. Ce que je peux vous dire en transparence, c'est que c'était un mélange de somnifères et d'anxiolytiques à forte dose sur les dernières, sur la dernière période, puisque entre le moment où ça a démarré et le moment où enfin ça s'est terminé, il n'y avait pas de phénomène de dépendance, mais il y avait un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire que les doses qui ont été appliquées en 2011, en 2020, n'étaient plus du tout les mêmes. Parce que derrière, le corps ne réagissait plus, en fait, n'était plus suffisamment réceptif. Donc ça, déjà, en soi, on se dit, c'est un miracle que ma mère n'ait pas fait un arrêt cardiaque, n'ait pas fait un coma. Bah, ça aurait pu très, très mal se terminer, quoi.
Le mode opératoire et les agressions, puisqu'il faut les nommer comme ça, se passaient au sein même de la maison familiale.
Oui. Je peux vous le dire, vous l'avez lu dans le livre. Ça n'a pas été que dans la maison familiale. Moi, il y a des viols qui ont eu lieu chez moi. Donc ça, c'est extrêmement compliqué aussi pour moi de me dire que des inconnus sont venus dans ma maison pour abuser de ma mère. Donc, si vous voulez, c'est une violence incroyable. On se dit, mais il n'y avait plus de limite, quoi. Ça n'a pas été circonscrit que au domicile conjugal, familial. Ça s'est fait chez moi.
L'affaire a été révélée au grand public puisque votre père a été arrêté pour une autre affaire.
En fait, ce qui s'est produit, c'est que par miracle, il se fait prendre en flagrant délit en train de filmer sous les jupes de trois femmes qui vont très vite déposer plainte, et heureusement, parce que c'est grâce à cela qu'il va être mis une première fois en garde à vue. Si ces femmes-là ne déposent pas plainte, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de perquisition, et il passe totalement en dessous des radars. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'au moment de sa garde à vue, les officiers de police du commissariat de Carpentras font un travail extraordinaire. Ils prennent cette affaire très au sérieux. Ils vont regarder son portable, ils vont découvrir des photographies plus que suggestives. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont aller perquisitionner l'ensemble de son matériel informatique au domicile. Et derrière, c'est un mois et demi d'analyse pour remonter ce qu'ils vont découvrir. Plus de 20 000 photographies et vidéos.
Quand on lit votre ouvrage, on plonge de plus en plus dans l'horreur, en fait. On a l'impression qu'il y a encore une gradation de page en page. Il y a un moment terrible quand les enquêteurs vous demandent même de vous reconnaître sur des photos.
C'est un vertige total. D'ailleurs, si vous voulez, le choc est tel que j'ai même du mal à me reconnaître. Le cerveau, en fait, n'intègre pas ce que je suis en train de voir. Et puis finalement, cet officier me regarde et me dit, mais Madame Darian, vous avez bien une tache brune sur votre joue droite? C'est bien vous sur les photos. Et là, c'est vrai que là, je suis percutée, en fait. Je suis totalement percutée, je perds l'équilibre. Mais c'est vrai, hein. Physiquement, je perds l'équilibre.
Vous racontez d'ailleurs dans le livre votre hospitalisation, vous racontez aussi
Oui.
l'aide psychologique qu'il faut avoir aussi parce,
Ah oui.
par rapport à une affaire
C'est
comme ça.
ça aussi, c'est de dire aujourd'hui, la prise en charge d'un choc traumatique lié à des agressions sexuelles, aujourd'hui en France, elle n'est pas systématique. Il n'y a pas véritablement de passerelle systématique entre le monde judiciaire et la prise en charge médicale dans ce genre de situation. Et ça, c'est pas acceptable en 2020, en 2022, surtout après la vague MeToo. Vous voyez, moi, je me suis dit, mais en fait, dans les faits, il n'y a pas de maillage systématique. C'est terrible, parce qu'on est victime. On doit se prendre en charge alors qu'on arrive à peine à marcher, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement difficile d'avoir à se trouver une prise en charge psychologique. Je vais où? Je vais voir quel psychologue? Voyez? Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai découvert qu'il y avait une maison des femmes qui existait en France. Sinon, parce que je me suis documentée, j'ai cherché, je me suis dit, mais en vrai, comment font les femmes qui n'ont pas d'appui, d'alliés? Comment font-elles, en fait, pour se réparer, pour avancer, pour continuer à avoir une vie normale?
Au centre de l'affaire, donc, il y a votre père. Vous en parlez comme d'un fossoyeur de famille. Hein, je crois que c'est le mot que vous utilisez, d'un assassin de mémoire. Ce père qui envoie des lettres, en tout cas, qui envoie des lettres depuis la prison. Il y a un passage qui est assez hallucinant avec une manipulation.
Oui, ce qui est assez étonnant, c'est de découvrir que quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience du milieu carcéral arrive très vite à activer encore ce processus de manipulation. Et là, on se dit, ah oui, il y a quand même, c'est quand même très ancré, quoi. Et c'est, du coup, psychologiquement, je me dis, mais effectivement, tu ne connais pas ton père. Voilà, je ne connais pas cet individu.
Vous écrivez aussi l'empathie qu'a encore votre mère par rapport à votre père. Et vous-même, à un moment donné, je crois que c'est, on est en janvier, et vous pensez à votre père qui est en prison. C'est un sentiment qui doit être difficile
à
gérer.
Vous savez, c'est... Moi, je découvre que je ne connais pas cet individu que j'aimais profondément. Ça reste mon père. Même si aujourd'hui, moi, je dois faire un processus de deuil, tout comme ma mère, d'ailleurs, doit faire le processus de deuil de son mari, puisque, voilà, ça reste, pour moi, c'est 40 ans de ma vie, pour elle, c'est 50 ans de vie commune. Donc, c'est très compliqué d'avoir à détester quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Après, voilà, moi, j'ai la capacité intellectuelle de me raisonner et de me dire que je ne connais pas cet homme parce que j'ai très vite compris ses ressorts et son mécanisme. Pour ma maman, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile et c'est ô combien normal, en fait. Vous vous rendez compte, elle a eu 3 enfants avec cet homme. Donc, ça voudrait dire mettre toute sa vie à la poubelle. C'est pas possible. C'est impossible. Heureusement qu'elle garde des bons souvenirs avec lui parce que sinon, je pense qu'il y a de quoi, en finir.
D'autant plus que vous racontez que c'était un père attentionné, il vous emmenait à l'école, il était très attentionné dans votre...
Mais on avait une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. On ne fait pas partie de ces familles, on n'est pas des... Enfin voilà, on avait une vie normale, partait en vacances, on était très proches les uns des autres. Moi, j'ai eu un papa qui m'a emmené à l'école, qui m'a encouragé dans mes activités sportives, qui m'a emmené à la danse, qui le matin m'a emmené au collège puis au lycée. C'est un papa qui était présent en plus. C'est un papa qui participait, par exemple, aux tâches domestiques à la maison, qui faisait à manger, qui mettait la table. Enfin, c'était un papa présent, qui était certes, qui avait sa part de fragilité, mais qui est... Voilà, qui a quand même élevé ses 3 enfants et qui a été présent pour eux.
Comment, avec vos frères, vous vous positionnez par rapport à cette affaire-là? Est-ce qu'on a des sentiments, pas de culpabilité, mais de responsabilité en se disant « mais pourquoi j'ai pas vu ?»
Mais bien sûr. Enfin, je ne peux pas parler pour mes frères. Je ne me permettrai pas de le faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, moi, personnellement, de me dire, et c'est ce que j'écris dans le livre à un moment donné, moi qui me pensais suffisamment intuitive, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et oui, c'est extrêmement difficile de se dire que pendant 10 ans, on n'a rien vu, quoi. On n'a rien vu et pourtant, on s'est inquiété. On a encouragé ma mère à aller consulter des médecins. Les médecins n'ont rien compris non plus. Ça aussi, c'est important. Pourquoi l'écriture de ce livre, vous me le demandiez tout à l'heure? Parce qu'en réalité, le premier rempart que sont les médecins, quels qu'ils soient, spécialistes, et même les urgences, hein, en vérité, ils doivent être sensibilisés et formés à ce qu'est la soumission chimique en France. Les symptômes doivent être détectés beaucoup plus tôt. Si cette affaire, elle peut servir aussi à sensibiliser le corps médical, mais je m'en réjouis, quoi. Parce que ma mère, ça a duré 10 ans, vous vous rendez compte. Il faut que ça serve aussi, que cette affaire, elle serve à faire évoluer la prise en charge.
Votre mère a divorcé. Comment va-t-elle aujourd'hui?
Elle est en cours. Ma maman est quelqu'un de très fort, qui continue de regarder devant. C'est quelqu'un qui souhaite rester digne. C'est hyper important. Et j'espère que les journalistes respecteront ça. Je me permets de vous le dire parce que j'ai lu un article qui a été diffusé il y a quelque temps, qui a été vraiment très, très difficile pour nous, mais alors pour elle encore plus. Parce que quand on lit ce qu'il y a dans cet article, pour elle, c'est tellement avilissant ce qui est dit. Il faut quand même respecter la victime qu'elle est, quoi. Ma maman, elle va sur 70 ans quand même, hein. Et c'est quelqu'un qui veut garder la tête haute.
Alors, vous dites que votre maman est forte, mais vous aussi, vous faites preuve d'une force assez, assez incroyable. Et quand on sort du bouquin, on se dit, mais comment vous êtes encore debout? Et puis surtout, comment la famille tient?
On tient parce qu'on s'aime et que on n'a pas d'autre choix que pour tenir. On est mes frères et moi. On a une famille, on a des enfants, on a des conjoints. On peut pas se permettre de s'effondrer, c'est pas possible. Enfin, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas vraiment le choix. Et surtout, on est unis. Moi j'ai la chance d'avoir des frères qui sont hyper présents, qui me soutiennent. Et j'espère aussi pouvoir les soutenir à ma mesure. Mais voilà, ils sont d'une force incroyable parce que c'est tellement lourd. On n'a pas le choix. Il faut qu'on avance. Et puis ils sont comme moi. Ils veulent que cette affaire, elle serve aussi à faire bouger les lignes en France.
Dans le livre, vous parlez aussi du travail. Vous retournez au travail et je crois qu'on vous propose un nouveau poste.
Oui.
Ça a eu une vertu forte, ça aussi de...
Ça m'a permis, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Je suis dans une entreprise qui prend soin des personnes. J'ai une équipe formidable avec qui je travaille, qui respecte aussi ma vie privée. Voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, par exemple, a très vite compris que j'avais besoin de travailler pour essayer d'avoir une vie normale.
Vous avez travaillé tout au long de l'affaire ?
Oui, je continue de travailler. Et puis l'écriture de ce livre aussi m'a aidé à affronter les choses, à les mettre à distance. Ça a été une aventure pour moi aussi de le faire. Et je remercie aussi ma maison d'édition parce que là aussi, je suis très très bien entourée. Vraiment très bien entourée. Donc oui, bien sûr, je me suis arrêtée 2 semaines parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais après, très vite, j'ai voulu retourner avoir un pied dans la réalité, oui.
Comment vous avez travaillé pour écrire ce livre ? La précision que vous avez sur les jours, sur les faits, vous avez pris des notes ou est-ce que c'est tellement...
Oui, bien sûr. De toute façon, quand on vit quelque chose de cette nature et de cette ampleur, autant vous dire que les détails sont inscrits au millimètre, enfin en l'occurrence dans ma mémoire. Après, c'est vrai que très vite, j'ai pris des notes de ce que je ressentais, de ce que je vivais. C'est d'ailleurs comme ça que m'est venue l'idée du journal intime.
Et à mon nez, on s'est dit, mais jusqu'où ça va aller ? C'est quoi l'horreur d'après, quoi ?
On ne sait pas. Et puis, vous savez, on ne sait pas tout de l'affaire. Hein. Puisque, comme je vous le dis, il y a une instruction qui est en cours. On va découvrir encore d'autres choses. Donc, il faut qu'on s'arme aussi par rapport à ça. On n'a pas encore tout à fait tout exploré. Hein. Donc, vous savez, c'est une course de fond, cette affaire. En réalité, c'est une course de fond. Il faut tenir sur la longueur parce qu'on ne sait pas tout encore.
Vous n'aviez jamais été confronté au système judiciaire jusque-là, aux enquêteurs ?
Ah non, vraiment pas, non. Rencontrer les juges d'instruction, comprendre comment ce qu'est le monde judiciaire, le temps judiciaire surtout, parce qu'en réalité, le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps des victimes. Hein. Donc ça aussi, c'est assez déstabilisant.
On aura un procès dans les peut-être 3, 2, 3, 4 ans, globalement ?
J'aimerais éviter que ce soit si long.
Là aussi, c'est un moment qui est très compliqué puisque tout va ressortir. C'est quelque chose que vous redoutez ou est-ce que le livre, déjà, c'est un premier palier ?
Pour moi, le livre, c'est un premier pas vers la vérité. Après, c'est sûr que ça sera une épreuve de plus. On en est tous parfaitement conscients. Ça sera le point d'orgue. Donc, ça sera sans doute très compliqué pour nous tous. Oui.
Est-ce que vous avez des nouvelles de votre père ?
Non. Non, et je ne tiens pas à en avoir.
Quand vous avez bouclé votre journal intime, que vous avez décidé de... À un moment donné, c'est posé la question du titre.
Dans la vraie vie, j'ai très vite cessé de l'appeler papa, oui. Donc ça, c'est apparu comme une évidence.
Un dernier mot sur la soumission chimique, c'est vraiment l'objet de ce livre aussi. Vous n'êtes pas la seule famille qui avait été victime de ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est essayer de détecter les symptômes. Ma mère, c'était des amnésies à répétition. Ça a été des insomnies, puisqu'évidemment son rythme de sommeil était complètement déréglé. Ça a été aussi une perte de poids assez fulgurante, perdait beaucoup ses cheveux. Donc, c'est des symptômes avant-coureurs quand même, que nous, on n'a pas su détecter, que le corps médical n'a pas su détecter non plus. Aujourd'hui, en France, j'imagine dans d'autres pays d'Europe, mais on pense que la soumission chimique, c'est se restreindre du GHB dans un verre d'alcool, hein, dans le milieu étudiant, dans les bars, dans les grandes villes de France. C'est pas ça du tout. Il y a ce genre de pratique aujourd'hui, c'est en vérité, c'est l'arsenal préféré de ce genre d'individus, c'est surtout la pharmacie familiale à disposition. C'est des médicaments qui se procurent assez facilement. Anxiolytiques, somnifères, vous faites passer pour quelqu'un de dépressif, c'est pas très compliqué de les obtenir. Donc ça pose aussi la question du contrôle de la délivrance aussi de ces médicaments, je pense. Il y a quand même des chiffres aussi qui ont été relatés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors certes, elle date un peu, mais enfin, elle n'est pas si datée que ça. Elle date de 2019. C'est même la NSM qui le dit. Ce genre de cas sont très, très mal documentés. Et pour autant, ils sont bien réels, ils existent. Et dans ce qui a été publié en 2019... Ils disent bien que 66% des cas qui sont recensés et répertoriés dans cette étude, des agressions sexuelles qui ont eu lieu, ont été permises par l'utilisation de ce genre de molécules. Ce n'est pas le GHB qui arrive en tête de liste, ce sont les benzodiazépines. Il faut en avoir conscience.
Comment votre famille a reçu ce livre ?
Oh, c'est... beaucoup d'émotions. Ça a été beaucoup d'émotions pour ma mère et mes frères, oui. Et après, il est totalement fidèle à la réalité de ce que nous avons vécu. Donc, voilà, ça a été pour eux un moment fort.
Insoutenable, monstrueux, déflagration, comme vous l'avez dit au début. Il y a plein de mots comme ça qui viennent très vite quand on lit votre livre.
Écoutez, si j'arrive au moins, avec ce témoignage, à faire bouger les lignes pour optimiser la prise en charge, alerter les femmes qui aujourd'hui s'ignorent, ce sera mon plus grand souhait, en fait. Si je peux servir au moins à ça, ce sera formidable.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.